Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche soir face à Youfoll. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bonsoir Yvan.
Bonsoir Elodie.
Avec nous également Véronique Jacquier pendant une heure. Bonsoir Véronique.
Bonsoir à tous.
Et on commence comme d'habitude par un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
Une marche blanche en hommage à Lucas s'est tenue à Épinal dans les Vosges. Près d'un mois après le suicide de l'adolescent de 13 ans, plus de 500 personnes se sont réunies pour honorer sa mémoire. La marche s'est conclue par une minute de silence. Au printemps, 4 collégiens âgés de 13 ans seront jugés pour avoir harcelé l'adolescent en raison de son homosexualité supposée. En Ukraine, les combats sont rudes, notamment à Bakhmout, point chaud du front dans l'est du pays. À Kharkiv, au moins 5 personnes ont été blessées lors de 2 frappes russes. Face à la situation, le ministre ukrainien de la Défense a critiqué les réticences des Occidentaux à livrer des avions de combat, alors que le pays s'attend à un assaut russe d'envergure ce mois-ci. Aux États-Unis, les républicains critiquent Joe Biden pour sa gestion de l'incident du ballon chinois. Selon eux, le président démocrate a été trop lent à agir. Il avait donné l'ordre d'abattre l'engin mercredi, mais le Pentagone attendait que le ballon survole la mer pour éviter des dégâts au sol. De son côté, Pékin accuse les États-Unis d'avoir surréagi en employant la force et se réserve le droit de répliquer. Et puis au tournoi des 6 nations, ça n'a pas été simple, mais le 15 l'a fait. À Rome, l'équipe de France s'est imposée face à l'Italie, 29-24 pour son entrée en lice dans le tournoi. Tenant du titre, les Bleus ont souffert, trop de fautes, mais un bonus offensif pour les hommes de Fabien Galthié. Prochaine rencontre, ce sera à Dublin le week-end prochain face à l'Irlande.
Au sommaire de l'émission aujourd'hui, d'abord le texte des retraites qui arrive dans l'hémicycle ce lundi, mais les mobilisations continuent, des journées de manifestation sont prévues mardi et samedi. Alors le gouvernement peut-il tenir face à la rue? Il n'a de cesse de rappeler que le débat parlementaire est important, oui, mais que faire de cette colère qui s'exprime dans la rue? Doit-on craindre un bras de fer qui mènerait au blocage alors que selon un sondage, 60% des Français comprendraient le blocage du pays? Et puis, autre texte qui fait débat, le projet de loi immigration, un texte qui doit trouver une majorité. Le gouvernement veut faire plaisir à tout le monde, il veut faire plaisir à la droite avec la fermeté, à la gauche avec l'humanité. Et finalement, il ne satisfait personne, pas même sa propre majorité. Alors le texte est-il à la hauteur des enjeux? On en débattra. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Jean-Paul Brighelli, norméen malien, agrégé de lettres. Il enseignait pendant 45 ans au collège, au lycée, puis en classe préparatoire. Premier thème donc de l'émission, les syndicats ont renouvelé avec succès leur démonstration de force mardi contre la réforme des retraites. 2 autres manifestations prévues cette semaine. Emmanuel Macron peut-il tenir, Yvan ?
La rue est un obstacle, un sérieux obstacle. Mais vous avez dans le Figaro magazine de ce week-end une interview de Nicolas Sarkozy qui rappelle qu'il a connu cette épreuve de la rue, qu'il a connu cette épreuve de la grève quand il avait décidé, c'était en 2010, de faire passer la retraite de 60 à 62 ans, alors même que ce n'était pas dans son programme. Et donc, il a affronté ce mouvement et il a gagné. Et donc, a priori, il me semble que la conjonction est encore plus favorable pour Emmanuel Macron pour au moins 2 raisons. D'abord, Emmanuel Macron ne se représentera pas. Donc, il n'a pas à flatter un électorat, il n'a pas à s'assurer de sa réélection, comme Nicolas Sarkozy avait pu avoir cet obstacle-là. D'ailleurs, il avait été battu. De plus, on voit bien que dans la psychologie du président de la République, il tente de vouloir imprimer, en tout cas, son passage à l'Élysée et d'être à la hauteur de la réputation qu'il s'était donnée d'être un président réformiste. Pour l'instant, il n'a rien réformé du tout, tout à fait à la marge. Et donc, j'imagine, me mettant à sa place, qu'il veut imprimer sa marque, en tout cas sur la réforme des retraites. Même si c'est une réforme à minima, il faudrait au moins qu'il réussisse ceci. S'il échoue sur la réforme des retraites, c'est toute la politique, c'est la politique qui échoue elle-même, qui recule devant la rue. Et donc, ça ne me semble pas peu probable. Donc, d'autant plus que face à ce front syndical qui est naturellement mène des actions qui sont tout à fait honorables, bien entendu. C'est un front syndical qui n'ira pas jusqu'au bout de la guerre. Il ne veut pas une guerre totale. Il ne veut pas une guerre totale parce que la totalité des syndicats qui appellent à manifester ont voté pour Emmanuel Macron, très directement pour la CFDT, indirectement pour la CGT et les autres, en disant qu'ils voulaient battre Marine Le Pen. Or, on sait bien que si le gouvernement est fragilisé, si, par exemple, il y avait une dissolution ou quoi d'autre, l'alternative qui se présente aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Or, le Rassemblement national, qui demain va mettre au vote à l'Assemblée une proposition référendaire, ne sera pas suivie. Cette proposition référendaire, qui voulait donc mettre le débat des retraites en référendum, sera rejetée par la gauche et l'extrême gauche, alors même qu'elle l'a demandé, mais comme cela vient du Front National, qui est considéré comme étant un parti fascisant par une partie de LFI. Je crois que c'est Mme Rousseau qui a dit ça. D'ailleurs, ça donne une idée quand même de l'enfermement intellectuel de ces gens-là. Parce que s'il y a un fascisme, il n'est plus tellement à droite, mais il serait plutôt à gauche. Enfin bon, en tout cas, la gauche se fera encore front commun pour défendre, dans le fond, la pérennité de ce pouvoir. Puis la troisième chose, et on l'a vu encore aujourd'hui avec Mme Elisabeth Borne, qui avait dit qu'elle s'accrocherait maintenant aux 64 ans, après avoir dit 65 ans, 64 ans. Et là, elle a, dans le JDD, elle a fait encore un autre recul en disant que ce sera 63 ans, en tout cas pour ceux qui ont travaillé plutôt pour les carrières longues et ceux qui ont travaillé à partir de 20 ans et qui ont leurs 43 années d'annuité. Donc tout ceci me fait dire que Emmanuel Macron a de grandes chances de gagner, même si il est vrai que sa réforme est conduite en dépit du bon sens. Et là, toute cette colère populaire a raison de montrer que c'est une réforme technocratique qui dit tout et son contraire. D'abord, Emmanuel Macron lui-même avait dit qu'il n'était pas question de passer de 62 à 65 ans, et on retrouve les vidéos et elles sont accablantes. Il avait, avec sa réforme à points, il avait laissé comprendre que la réforme par répartition était obsolète, et aujourd'hui il s'accroche sur cette réforme par répartition. En fait, la vraie question qui n'est pas posée, c'est de savoir si oui ou non cette réforme par répartition est viable. Moi, je soutiens, je l'ai déjà soutenu, je ne vais pas me répéter, qu'elle n'est plus viable par la force des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, auparavant, en 60 ou en 70, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 cotisant pour un retraité. Demain, enfin, dans pas longtemps, il y en aura 1,2. Donc on voit bien que c'est un système qui s'essouffle et qu'il faut penser autre chose. Et je suis de ceux qui approuvent, par exemple, David Linard, le maire de Cannes, qui dit qu'il faut penser à une retraite par capitalisation. Je ne cesse de le répéter, je l'ai même dit, pardon, avant David Linard, mais je suis bien content d'être rejoint par des personnalités de ce type, qui sont des gens très intéressants. Et donc il faut effectivement maintenant penser à garder une retraite par répartition, naturellement, pour les plus vulnérables, mais à ce que la retraite par capitalisation vienne renforcer les revenus de ceux qui, sinon, dans 15 ans ou 20 ans, ne toucheront quasiment rien. Déjà, on touche très peu avec la retraite actuelle, et ce sera une paupérisation qui sera accélérée. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que le gouvernement, malgré tout, peut voir, en tout cas, les astres s'aligner dans le bon sens, me semble-t-il.
Mais est-ce que quand même cette réforme des retraites ne risque pas d'être la goutte d'eau qui fait déborder la colère des Français ?
Ça, grande question. Les syndicats, naturellement, le pensent et on peut soutenir en effet que cette réforme, que cette opposition très populaire est une opposition qui pourrait rassembler toutes les colères françaises. Moi, j'ai déjà dit que je n'y croyais pas et j'aurais pu être démenti par la sociologie de ceux qui ont manifesté en effet cette semaine, où on a surtout aperçu que toutes les petites villes, y compris les petites villes, c'est-à-dire la France périphérique, la France oubliée, c'est fortement mobilisé, c'est un fait en effet, et ça a été noté notamment par une étude qui a été menée pour le Figaro par l'IFOP. Mais simplement dans cette étude-là, on montrait que ces sous-préfectures qui se sont fortement mobilisées, parfois 10%, 20% de la population étaient des petites villes très fonctionnarisées pour certaines, comme à Foix, par exemple, ou qui avait des fortes industries ouvrières ou agroalimentaires, comme à Carré. À Carré, c'est très intéressant. Carré, c'est dans le Finistère. C'est une ville où les manifestants ont envahi les rues, en effet. comme il y a 10 ans, les bonnets rouges, les premiers bonnets rouges, qui étaient un petit peu l'avatar des gilets jaunes, avaient également commencé à manifester. Donc on pourrait penser qu'il y ait une filiation, et d'ailleurs à l'époque, quand les bonnets rouges avaient manifesté, Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait rien compris de ce mouvement, avait dit de ce mouvement que c'était un mouvement de nigauds, et il avait été tout à fait désagréable, s'était désolidarisé de ce mouvement-là. Mais je pense malgré tout que cette lecture doit être relativisée, parce que cette même étude de l'IFOP montre que dans les régions les plus défavorisées, dans les régions qui n'ont plus accès au travail, au privilège d'avoir un travail fonctionnarisé, c'est-à-dire d'avoir la sécurité de l'emploi, ou d'avoir un travail dans des grandes entreprises, dans toutes ces régions qui sont beaucoup plus vulnérables à l'emploi, elles se sont beaucoup moins, qui votent Rassemblement National pour parti, ou qui s'abstiennent, elles se sont beaucoup moins mobilisées. Et donc, naturellement, on pourrait me faire remarquer que cette France périphérique se retrouve dans ce mouvement syndical. Je pense que non, ou en tout cas que cette France périphérique est elle-même divisée entre le public et le privé, si vous voulez, entre les privilégiés, si on peut dire, avec plein de guillemets, et ceux qui sont vraiment oubliés du système. Et donc, je persiste à penser que cette France-là, toute cette France périphérique, cette France des gilets jaunes, même s'il y a eu des gilets jaunes qui ont rejoint les manifestations, ne se reconnaît pas pour l'instant dans cette manifestation-là. D'autant que cette manifestation, si elle se focalise simplement sur les retraites et sur des mouvements très matérialistes, balaye toute une grande partie d'une réflexion sur la vulnérabilité culturelle, identitaire, existentielle, qui me semble-t-il, est en train d'ébranler une grande partie de cette France populaire-là qui n'estime pas que tout se résume aux retraites. Et or, a priori, et c'est une sorte de trompe-l'œil qui commence à se voir, on laisse comprendre aujourd'hui que toute la colère française serait d'abord représentée par les syndicats, ce qui reste à démontrer, et qu'elle ne s'arrêterait qu'au petit périmètre des retraites. Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Balladur a fait un grand papier très intéressant dans le Figaro cette semaine, dans lequel il parle de l'affaissement général du pays. Et quand il parle de l'affaissement général du pays, c'est-à-dire qu'il décrit le grand effondrement que l'on décrit très souvent ici avec Véronique, il parle non seulement des retraites, bien sûr, d'ailleurs il n'en parle pas, il ne parle même pas des retraites, mais il parle des domaines économiques, sociaux, éducatifs, de la sécurité, de l'immigration. Tous ces grands problèmes-là ne sont pas posés par ces grands mouvements incontestablement populaires, j'y reviens, mais qui, me semble-t-il, font l'impasse sur une grande partie d'une vulnérabilité française. Et donc, je persiste à penser, et je persiste à dire, que ce mouvement-là, ce mouvement en trompe-l'œil, est un mouvement qui ne fédérera pas, en tout cas, l'autre partie de cette France oubliée qui m'intéresse davantage, qui est cette France la plus vulnérable, qui, elle, est un peu désespérée et qui n'a pas, même pas le dynamisme aujourd'hui de descendre dans la rue. Je peux me tromper, naturellement, mais pour l'instant, c'est un peu ce paysage-là que je vois apparaître.
Véronique Jacquier, sur la possibilité, effectivement, que les luttes s'agrègent, que la rue arrive vraiment à se mobiliser. Comment vous voyez les choses? Est-ce que le gouvernement peut tenir ou est-ce que la rue peut peut-être le faire plier?
Alors, si on prend le paramètre de 2010, parce qu'une réforme des retraites, ça passe jamais comme une lettre à la poste. Hein, donc, il y avait quand même, jusqu'à la fin de l'examen du texte, 14 défilés, dont 4 avec plus de 2 millions de personnes dans les rues. Et Nicolas Sarkozy récoltait 72% de mécontentement. Voilà, c'est beaucoup. C'était aussi un terrain explosif. Pourtant, à l'époque, le président de la République n'a rien lâché. Et il était dans une épreuve de vérité, parce qu'il disait, mais après la crise de 2008, si vous voulez que je paye les retraites, il y a un moyen très simple, hein, c'est de passer de 60 à 62 ans. Sinon, on ne peut plus payer les retraites. Bon, Emmanuel Macron n'a pas fait cet effort de vérité. Il n'a pas fait non plus un effort de pédagogie, mais il n'a pas été dans un effort de vérité. Ça fait qu'on se retrouve maintenant effectivement avec Elisabeth Borne qui est en train de bouger le curseur. Et hop, on oublie le 64 ans pour ceux qui ont travaillé entre 20 et 21 ans. Maintenant, on en est à 63 ans. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 64 ans, ça veut fondamentalement rien dire et que c'est simplement un trophée. Donc, cette info est importante parce qu'on va voir comment elle va être reçue dans les heures et les jours qui viennent par les syndicats, par l'opinion aussi. C'est très, très important. Maintenant, je rejoins Yvan sur les frais fragilité culturelle, identitaire de notre pays, c'est-à-dire que le contexte a complètement changé depuis 2010. Le mécontentement, c'est un agrégat d'angoisse par rapport au monde du travail qui se dégrade. On l'a entendu dans les manifestations. C'est pas tant que les gens ne veulent pas travailler plus longtemps, même si ça fait plaisir à personne, c'est qu'ils ne veulent surtout pas travailler dans les conditions qu'ils traversent en ce moment dans le monde du travail. C'est valable pour les soignants, c'est valable pour les professeurs des écoles. Il n'y a plus de sens, on ne leur donne plus d'avenir, ils ne sont pas forcément considérés aussi bien publics que privés. Donc il y a vraiment une crise de sens par rapport à la valeur travail. Ils ne sont pas bien rémunérés non plus. Donc on l'a déjà dit dans diverses émissions, il aurait fallu qu'Emmanuel Macron commence par ce chantier de réhabiliter la valeur travail avec tout ce que ça avait à l'époque, quand Nicolas Sarkozy d'ailleurs a dit, si j'ai réussi à faire passer en 2010 la réforme des retraites, c'est parce que il y avait quand même cette notion de valeur travail, donc il y avait une forme de cohérence. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Moi, je pense que l'épreuve de la rue, les syndicats vont vouloir ne pas devenir impopulaires. Donc, il va y avoir, on l'a vu, encore des manifestations cette semaine. Il va y avoir des grèves, mais ça ne va pas forcément durer très longtemps. Et puis, Elisabeth Borne tend la main aux Républicains. Donc, sans doute, le texte, après avoir été beaucoup amendé, va forcément passer.
Vous avez parlé de mouvement en trompe-l'œil. Yvon, vous exagérez en utilisant ce terme ou... C'est comme ça que vous voyez vraiment.
Pas tant que ça, non. Je dis un mouvement en trompe-l'œil parce que on voit bien que ce sont des syndicats et c'est un peu la gauche zombie dans le fond qui essaye de se refaire une santé en prétendant qu'elle maîtrise toute cette colère française. Et puis c'est un trompe-l'œil, me semble-t-il, parce qu'en effet, je l'ai déjà dit, je trouve que les retraites ne peuvent pas focaliser l'ensemble du désespoir français. Il y a tout ce que Christophe Guilluy appelle les dépossédés, c'est-à-dire toute cette classe qui est oubliée et des syndicats et des médias et du reste, c'est une classe qui, encore une fois, attend son expression. Et puis je n'oublie pas, j'avais suivi les Gilets jaunes il y a 4 ans, je n'oublie pas la manière dont les syndicats avaient conspué les premiers Gilets jaunes. Je parle des premiers Gilets jaunes qui avaient mis sur des ronds-points, où je me souviens que le patron de la CFDT avait dit d'eux que c'était un mouvement totalitaire. Il parlait de totalitarisme populiste, je m'en souviens parfaitement. Je me souviens que la CGT, de la même manière, les avait traités d'homophobes, de racistes, etc., d'antisémites, on ne sait pas pourquoi. Et dès les premiers jours, donc, il y avait eu cette réticence syndicale à vouloir soutenir ce mouvement spontané qui me paraît toujours être beaucoup plus révélateur de la crise existentielle et de la crise démocratique qui s'installe et qui s'est enquistée en France. Et donc, pour ces raisons-là, je pense que, d'abord, les Français, enfin ceux des Gilets jaunes, en tout cas, ont de la mémoire et qu'ils voient bien qu'ils n'ont pas, en tout cas, à défiler sous les drapeaux de la CFDT et de la CGT. Mais en même temps, je vais faire mon président de la République, si je puis dire, en même temps, il peut y avoir effectivement une surprise de l'histoire et de faire en sorte que ces gilets jaunes-là, tous ces oubliés, puissent s'approprier à leur tour ce mouvement protestataire, comme les syndicats s'étaient appropriés en deuxième partie, le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement spontané. Donc, il est possible, naturellement, que cela se passe ainsi. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je vois.
Donc, Emmanuel Macron ira jusqu'au bout.
Emmanuel Macron ira jusqu'au bout, au risque de détricoter, peut-être. Il ira jusqu'au bout, à moins qu'il ne perpétue ce qu'il avait déjà fait pour la première réforme des retraites, où il avait pris prétexte de la guerre contre le Covid. Rappelez-vous, il avait dit 6 fois « nous sommes en guerre », et à cause de cette guerre contre le Covid, qui n'en était pas une, qui était du théâtre, il avait renoncé à cette première réforme par points, cette fois-ci. Et là, on pourrait peut-être imaginer, mais là, c'est une hypothèse que je pose en éventualité, que la perspective d'une guerre qui est sérieuse maintenant et qui commence à s'aggraver entre l'Ukraine et la Russie et qui commence à devenir une guerre de civilisation, que cette perspective d'une guerre soit également un prétexte, mais je me doute bien que ce ne serait pas le prétexte essentiel pour le président de la République à renoncer également à cette réforme.
Véronique Jacquier, pour terminer sur ce thème.
Mais moi, je pense que la seule chose qui pourrait faire bouger les Français, parce qu'il y a un sacré désarroi, une forme d'apathie, c'est si on touchait véritablement au portefeuille. Mais s'il y avait une véritable crise d'austérité, comme l'ont connu certains pays dans le passé, par exemple en 2011, l'Espagne ou le Portugal, où on a baissé drastiquement le nombre de fonctionnaires et on a même baissé pour certains les retraites en Espagne et au Portugal, où on a baissé aussi le montant des salaires. Là, les Français diraient, je me bouge et on retrouverait peut-être l'esprit gilet jaune. On est loin de tout ça. La France reste quand même un pays où l'État fait ce qu'il faut pour protéger le citoyen qui malheureusement est un consommateur, donc il en veut toujours plus.
Autre texte qui va faire polémique, le projet de loi sur l'immigration. Il a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Est-ce qu'il est, selon vous, à la hauteur des enjeux, Yvan ?
Bien sûr que non. Là, je me demande s'il y a besoin d'argumenter. D'abord, on a déjà abordé ce sujet-là. Alors, naturellement, le gouvernement nous dit qu'il va accentuer les procédures de reconduite à la frontière, qu'il va être beaucoup plus dur sur les OQTF, c'est les obligations de quitter le territoire, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui reste et ce qui restera dans la lecture de ce projet, c'est qu'en effet, le gouvernement se propose de régulariser des clandestins pour ce qu'il appelle des emplois en tension dans la restauration ou dans le bâtiment public. Il y a d'abord une sorte d'aberration et d'illogisme à faire venir des immigrés pour construire des logements pour des immigrés. C'est déjà je pense qu'il y a un raisonnement qui bloque quelque part chez eux. Et puis surtout, on ne peut pas. Il faut regarder les chiffres, tout simplement. Il y a 500 000 emplois vacants. Il y a 6 millions de chômeurs. Il y a 7 millions, attendez, il y a 7 millions d'inactifs. 7 millions d'inactifs, en plus des chômeurs, dont 3 millions dans la jeune génération qui s'est complètement détournée du travail. Et donc, c'est une première chose. Donc, il n'y a pas besoin d'apports supplémentaires, sauf naturellement à baisser toujours davantage les salaires. Et c'est en effet une proposition qui agrée au MEDEF et au patronat. Mais enfin, bon, on va pas revenir là-dessus, on a déjà épilogué. Et puis surtout, on s'aperçoit que par les chiffres qui ont été donnés cette semaine, il y a deux chiffres qui ont été donnés cette semaine, une série de chiffres. D'abord, les chiffres sur l'immigration légale, qui dépasse maintenant les 500 000 personnes par an. 500 000 personnes par an. Auparavant, c'était 400 000. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez maintenant, c'est les chiffres officiels, hein, 320 000 premiers titres de séjour, 150 000 demandeurs d'asile, et à tout ceci, vous rajoutez les clandestins qui sont entre 500 000, par définition, dont on n'arrive pas à mesurer, mais qui seraient entre 500 000 et 1 million. Et d'autre part, il y a eu le ministère de l'Intérieur a donné les chiffres de la délinquance qui sont également effarants, et moi je les mets en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a maintenant plus de 15% en coups et blessures, 11% d'augmentation pour les violences sexuelles et 8% d'augmentation pour les cambriolages. C'est-à-dire que l'inflation, sans jeu de mots, l'inflation aujourd'hui est partout. Et donc, on est obligé naturellement de s'interroger, de savoir pourquoi le gouvernement s'aveugle à ce point, d'autant que Gérald Darmanin lui-même a fait le lien entre l'immigration et l'insécurité. Donc il devrait bien voir qu'en faisant venir toujours davantage d'immigration, il va conduire naturellement à davantage de sécurité. Or, le gouvernement est incapable, mais on tombe là dans l'idéologie, il est incapable de penser l'immigration autrement que d'une manière positive. Et d'ailleurs, en effet, le président de la République avait toujours dit qu'il reprenait cette antienne de dire que l'immigration était une chance pour la France. Il l'a un peu amendé, mais il reste sur cet objectif-là. Et on croit comprendre, et je reprends une réflexion que vous venez de faire, Véronique, qu'en effet, le gouvernement ne voit plus dans un Français un citoyen, mais il y voit un consommateur, c'est-à-dire un consommateur qui peut être déraciné tout autant, qui peut être remplacé et qui n'a plus aucune filiation, si je puis dire, affective avec le pays d'accueil. Et donc, en effet, dans ce pays de consommateurs, vous pouvez multiplier les arrivées, les départs, tout ceci n'a plus d'intérêt, sinon de vouloir maintenir un pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat devient maintenant la pièce maîtresse de tout raisonnement du gouvernement.
Véronique Jacquier, ce texte n'est pas à la hauteur des enjeux, il ne prend pas l'immigration sous le bon angle ?
C'est le énième projet de loi et on voit qu'il y a toujours plus d'immigration et une immigration qu'on lie de plus en plus à l'insécurité et à la criminalité. Donc il y a quand même un très très gros problème. Moi je pense que c'est une volonté politique. On pourrait avoir un texte de loi qui porte du fruit. Il suffit pour cela par exemple de prendre l'exemple du Danemark. Le Danemark qui fait partie de l'Europe, qui fait partie de l'espace Schengen, qui est aussi sous la coupe de la Cour européenne des droits de l'homme et qui pourtant a négocié une série de dérogations aux traités européens pour gérer et réguler les migrations comme ils l'entendent, et ce depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'ils ont eu un gouvernement de droite et que la gauche démocrate a continué le travail qu'a commencé la droite. Donc il y a une grande cohérence, tout ça pour être très exigeant, c'est-à-dire on n'accorde plus la nationalité à n'importe quel prix, on veut préserver un modèle social, c'est très compliqué maintenant de rentrer au Danemark. Il y a la Suède aussi maintenant qui emboîte le pas. Et chaque fois, c'est au nom de la défense d'un modèle social et aussi d'un modèle civilisationnel. Donc la France devrait en prendre de la graine.
Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant avec votre invité juste après cette courte pause. De retour dans votre émission Face à Rioufol. Dans un instant, c'est l'invité. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
Troisième journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites mardi. La circulation sera de nouveau fortement perturbée. Avec pour la SNCF, un train sur deux en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo, 3 TER sur 10 et 1 RERD sur 6. À Paris, la RATP annonce un trafic très perturbé pour les métros et les RER. C'est mieux du côté des bus avec 8 cars sur 10 et normal sur le réseau tramway. Le trafic aérien aussi ne sera pas épargné. Certains contrôleurs seront en grève mardi. La Direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur 5 à l'aéroport d'Orly. Les passagers qui le peuvent sont invités à reporter leur voyage. Et puis c'est un retour en force. Teddy Riner, vainqueur du Grand Slam de judo de Paris. À Bercy, le Français s'est imposé en finale contre le Japonais Yoga Ota. De retour de blessure, le colosse de 33 ans décroche ainsi un 7e titre à Paris à un an et demi des Jeux Olympiques.
L'invité de cette émission Face à Rioufol, Jean-Paul Brighelli, norméalien agrégé de lettres, auteur notamment de La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire. Yvan Rioufol, pourquoi avoir choisi de le recevoir ce soir ?
Écoutez, si j'avais à faire un rêve, ce serait de voir Jean-Paul Brighelli succéder à M. Papendiaï à l'éducation nationale. J'ai une grande admiration pour ce professeur, cet enseignant qui alerte depuis maintenant des années, parce que votre premier livre, c'était en 2005, s'appelait « La fabrique du crétin ». Vous expliquez déjà l'effondrement de l'école, vous n'êtes pas désentendu. Maintenant, vous refaites un livre sur ce même thème en parlant même d'apocalypse. Et ma question est de savoir si vraiment l'école va aussi mal que vous le dites.
Alors, il va falloir, je ne veux pas cultiver le paradoxe, hein, mais il faut rectifier une idée que vous avez là, l'école va très bien. L'école fait très exactement ce pourquoi on l'a programmée depuis 40 à 50 ans. Et on est dans le plein rendement. J'ai eu la naïveté à un certain moment, en 2005, en ayant une certaine audience avec la première époque de la fabrique du crétin, qui était la mort programmée de l'école. Je me suis dit, bon, ça va peut-être donner des idées, donner à réagir, etc. Non, il ne s'est rien passé. Oui. Ça continuer, ça s'est accentué simplement parce que la programmation, la vraie programmation de l'école va dans le sens que nous savons, c'est-à-dire on dégage 10% d'élites autoproclamées et 90% de consommateurs. C'est un mot qui commence mal d'ailleurs, hein, consommateur. Mais c'est exactement tout ce que l'on veut. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est pas un complot. Il n'y a pas trois ou quatre grands esprits qui se sont mis dans un coin pour dire voilà ce que nous allons faire de l'école de la République. C'est un mécanisme. Et ce mécanisme s'est mis en place entre la fin des années 50 et les années 60. Ça date, hein.
Vous exonérez, mais en général, on dit de mai 68 qu'elle a été le point de départ de l'effondrement de la transmission.
Non, c'est
une et vous le mettez à plus.
C'est un épiphénomène. Alors, je vais raconter une belle histoire. Hein. J'aime bien raconter. En 62, ça, les ministres, ça n'a absolument aucune importance. Quand vous rentrez dans le ministère de l'Éducation, vous avez toutes les photos de tous les ministres depuis 1876. Vous en connaissez à tout casser une dizaine, les plus récents. Les autres sont d'illustres inconnus. C'est pas eux qui ont le pouvoir dans l'école. Ceux qui ont le pouvoir sont les bureaux. En l'occurrence, ce qu'on appelle la DGESCO, la Direction Générale des Enseignements Scolaires. En 62, à la tête de la DGESCO, il y a un garçon qui s'appelle René Haby, qui est très proche de Giscard, qui lui-même est ministre de De Gaulle et qui va se débrouiller pour faire chuter De Gaulle au référendum de 69. Ça, c'est l'histoire. René Haby va créer une commission, qu'on appelle la commission Rouchette, pour savoir quel est le français que nous devons désormais enseigner à l'école. C'est une question qui semble stupide, parce que vous, moi, qui appartenons plus ou moins à la même génération, nous avions quand même appris La Fontaine, Lamartine, Victor Hugo, etc. Le français, c'était le français qu'avaient écrit et parlé les meilleurs écrivains. C'est fini. La commission a déterminé que le français, c'était celui de la rue. C'est ce qui a permis à un député En Marche, il y a 2 ans, d'expliquer que le sommet de la poésie, c'était Aya Nakamura, hein, actuellement. Et sur cette lancée, alors imaginez, la langue de la rue qui devient la langue enseignée. C'est au même moment qu'on a imposé ce qu'on appelait les mathématiques modernes. Les mathématiques modernes, c'était de façon à ce que les parents ne puissent pas aider les enfants. hein, de sorte qu'on les mettait face à la théorie des ensembles, etc. Les parents flottaient complètement.
C'était une construction idéologique dès le départ ou
non, c'était une construction idéologique, si vous voulez. En fait, il faut remonter à Jean Monnet. Jean Monnet avait été l'heureux bénéficiaire de deux guerres mondiales. Il s'est dit plus jamais ça. En même temps, d'après De Gaulle, c'était le petit agent de la CIA, pratiquement. L'idée générale, c'était d'éliminer les nations en Europe.
Éliminer les nations. Il y avait bien une démarche.
Éliminer la langue. Ouais. Éliminer l'étude de l'histoire. Éliminer tout ce qui faisait le cœur véritablement de la civilisation française et plus largement européenne. Et on est en plein dedans là actuellement.
Oui,
hein.
Oui.
Je rappelle, si l'Europe, si Ursula von der Leyen, on n'a plus qu'à tirer l'échelle, peu de choses de près. Bon, on l'a très bien réussi. D'ailleurs, René Haby, pour prix de ses services, se retrouve ministre de l'Éducation nationale en 1974. Ministre de Giscard.
Mais, pardon, avant d'être... C'est un modèle américain qu'on veut nous imposer, dans le fond ?
Non, c'est l'idée, en quelque sorte, d'ouvrir la porte à ce qu'on n'appelait pas encore la mondialisation, mais qui était dans les tiroirs. Hein, l'Europe, de toute façon, je vous rappelle qu'au départ, c'était un marché commun. C'était l'idée de laisser circuler les marchandises. Les marchandises, ce n'est pas les idées. Vous voyez, ça, c'est un point particulièrement important. Et on a éliminé, regardez, n'importe quel billet actuel. Vous avez dessus des architectures imaginaires, ce ne sont pas des architectures réelles, représentant des ponts, des portes ouvertes. Il y a un symbole là, dans le pont, chacun va vers l'autre, blablabla. Bla, bla. À l'époque, rappelez-vous, on a eu en main Pascal, Napoléon, Richelieu, Victor Hugo. On pourrait même, à notre âge, en scrogneux que nous sommes, dire, voilà, Victor Hugo, c'était le billet de 5 francs, etc. Hein. Et de la même façon, les Allemands avaient Goethe, les Italiens avaient Dante. C'est fini, il n'y a plus rien.
Oui, mais là, vous parlez des années 60. Dans les années 60, on avait précisément encore cette référence à notre passé.
Ça a été un plan en plusieurs moments.
D'accord.
Hein, on a 76, le collège unique, c'est-à-dire qu'on va mettre tout le monde indifféremment en sixième, et ça correspond pile au moment où on décide le regroupement familial. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en sixième avec des gosses qui étaient pour rien, hein, qu'on soit bien clair, qui arrivaient d'un Maghreb indistinct, qui ne savaient pas forcément parler français, et vous les avez dans la même classe, n'importe quel prof fait cours pour les plus faibles. Ce qui a eu pour effet de descendre encore le niveau. La troisième étape, ça a été la loi Jospin. La loi Jospin, c'est le moment, vous savez, où chaque élève doit construire lui-même ses propres savoirs. C'est pour ça que ce qu'on appelle le pédagogiste est également un constructiviste.
Oui.
Alors, le constructiviste, c'est simple, il vous met face à une phrase, les arbres que nous avons plantés, il vous dit « que remarques-tu ?» D'ailleurs, vous ne remarquez rien du tout. Et, ah oui, il y a un S à planter, mais c'est parce qu'il y a « les » devant. Les planter, hein ? Les planter, ça doit être un nom. Oui, non ? Alors, il va falloir un certain temps. Alors, on pourrait très bien avoir une relation verticale et lui expliquer que le participe passé s'accorde avec le COD lorsque celui-ci est antéposé, etc., et que ça date d'une réforme imposée par Clément Marot en 1526. Bon, mais tout ça, c'est fini.
Ce que vous nous présentez là, ce processus de déculturation, d'abrutissement des masses, est un processus, dans le fond, totalitaire. On le voit dans les régimes totalitaires. Les régimes totalitaires se contentent, effectivement, d'une école qui n'apprend que 500 mots.
Ivan Ruffol, c'est pas votre âge, je vous expliquais que l'Europe est un système totalitaire. Enfin, parce que la quatrième étape, ça a été la convention, le protocole de Lisbonne en 1999-2000, où on a déterminé que sur toute l'Europe, on allait fabriquer 10% d'élite, c'est-à-dire que l'oligarchie va se débrouiller pour avoir des établissements pour ses enfants, et 90% de gens qui seront ubérisables jusqu'au trognon. Vous voyez ?
Quand vous dites « on a déterminé », c'est qui ?
L'ensemble, finalement, des acteurs économiques. J'ai dit bien économiques. C'est-à-dire que ça a échappé complètement aussi bien aux acteurs éducatifs qu'aux acteurs culturels.
Ils n'ont rien vu.
Non seulement ils n'ont rien vu, mais c'est ça le plus beau. Vous savez, moi, je trouve ça même esthétiquement très réussi. C'était une volonté de droite, c'était globalement les Giscardiens, hein, à peu près, en France. Et ils ont trouvé un relais extraordinaire chez les idéologues pédagogues de gauche. Et ce sont des gens de gauche, toujours actuellement. Hein, actuellement, là, à l'heure qu'il est, si par hasard, il y en a qui sont devant CNews, mais vous savez bien qu'il n'y en a plus, d'ailleurs, devant CNews, ils sont en train de me vomir. Parce que je leur dis, ben voilà, vous avez participé à la destruction de l'école et surtout vous avez participé à l'enterrement des plus fragiles dans les ghettos dont on aurait pu les sortir. Mais c'est fini. On a construit des ghettos scolaires à l'intérieur des ghettos sociaux. On a créé une école à deux vitesses, hein, entre quelques établissements, privés ou publics, ça n'a absolument aucune importance, qui s'occupe de l'élite. L'élite se détermine, vous savez, en fonction du prix du mètre carré, hein, à peu de choses près. Et une masse d'établissements qui sont d'ailleurs beaucoup moins dotés. Il faut bien voir quand même, il y a tout un discours extraordinaire du style « Oui, mais nous investissons beaucoup dans l'éducation prioritaire, dans les ZEP, dans les REP, dans les préventions violences, etc. » Je conseille au ministre... qui fait un peu de figuration là, intelligente, mais de la figuration, au lieu de faire une minute tous les vendredis sur tel ou tel point, de prendre sa voiture, d'aller de façon impromptue, sans dire aux gardes du corps, dans tel ou tel établissement, je peux lui en donner d'excellents, hein, tout point de vue, pour voir comment ça se passe véritablement. Ce qui se passe véritablement, c'est que les plus fragiles, ceux qui sont culturellement les moins avantagés sont détruits et sont détruits par des pédagogies qui, sous prétexte de participer à leur éducation, de leur apprendre à apprendre, de leur transmettre des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-savoir, les empêchent de savoir quoi que ce soit véritablement.
C'est un mépris pour ces gens-là ?
J'hésiterais à le dire. Si ce n'est que tous les pédagogues de gauche qui ont des enfants les inscrivent dans de bons établissements. Voyez.
À commencer par le ministre de l'Éducation.
À commencer par le ministre de l'Éducation, mais je ne suis pas sûr que l'école alsacienne, où sont ses enfants, soit un si bon établissement que ça, parce qu'il faut bien comprendre une chose, il y a une crétinisation générale, c'est pour ça que j'ai parlé d'élite autoproclamée. Ce n'est pas forcément très bon ce qu'ils font, ni à l'école alsacienne, ni à Stanislas, ni à Henri IV. Il faut bien comprendre ça. Le niveau des enseignants a terriblement baissé depuis une dizaine d'années parce que dans les concours, on a mis une part énorme de pédagogie. Montrez-nous comment vous faites un cours. Au lieu de leur demander véritablement des savoirs aussi, parce qu'enfin, si le maître ne sait pas grand-chose, il y a peu de chances que l'élève apprenne quoi que ce soit. Voyez,
Véronique Jacquier.
Mais alors, avec tout ce que vous nous racontez, comment sauver l'école ? Est-ce qu'elle peut être encore sauvable ?
Je complète. Si vous êtes nommé demain ministre de l'Éducation, ce que je souhaiterais, quelles seraient vos premières mesures ?
Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir cesser de penser en termes nationaux. Par exemple, faire des programmes nationaux, etc. Il va faire des programmes sur mesure en fonction de l'état des élèves dans tel ou tel établissement. C'est-à-dire que ceux qui, actuellement, ne savent presque rien, statistiquement, 40% des élèves de 6e ne savent pratiquement ni lire ni écrire. Alors, ce que Papendiaï a proposé, c'est une heure par semaine de rattrapage faite par des professeurs des écoles qui viendraient en 6e. Alors, j'aimerais savoir comment des professeurs des écoles qui, en 5 ans, n'ont pas réussi à leur apprendre la syntaxe et la grammaire vont en une heure hebdomadaire, en 6e, rattraper un niveau dont ils se fichent par ailleurs. Voilà.
Quelle est la priorité ? C'est le primaire, c'est la maternelle, le primaire, le secondaire, déjà, pour aller dans l'ordre ?
Écoutez, Valo Belkacem, qui était la dernière ministre à avoir pensé le problème globalement, c'est-à-dire qu'elle a participé globalement à la destruction générale, a tout réformé en même temps. On peut tout réformer en même temps. Mais alors, il va falloir se fâcher avec pas mal de gens. Prends un exemple. Blanquer avait imposé l'expérimentation d'une méthode de lecture sur Paris, qu'on appelle pas me revenir. Une méthode alpha syllabique.
Il avait distribué les fables de La Fontaine voilà. également, c'était pas mauvais.
Par ailleurs, mais les syndicats, le SNUIPP a dit c'est du caporalisme, on veut nous imposer principe de la liberté pédagogique. Suffit la liberté pédagogique. Le problème, c'est vous avez un enfant. Alors, dans la case A, il faut l'amener à la case B et si possible à la case Z avant la fin de l'année. Il ne s'agit pas de l'aider à s'exprimer, etc. Il faut lui donner des armes. Il faut lui donner des armes pour lui permettre de rattraper ou de rafistoler un ascenseur social qui est en panne depuis des années. Hein ? Non seulement l'ascenseur social est en panne, mais l'escalier de service a été détruit.
Est-ce que c'est réparable tout ça ?
Je vais vous citer, c'est un peu comme pour le féminisme, pour les retraites ou quoi que ce soit, je vais vous citer Laclau dans son discours sur l'éducation des femmes, apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Voilà, on en est là.
Oui, mais vous la voyez poindre cette révolution ?
Vous la voyez pas.
Expliquez-moi où elle est.
Ah bah écoutez, dans les manifestations des Gilets jaunes, sauf erreur de ma part, je ne sais plus quel jour c'était, ils ont été à deux doigts de prendre l'Elysée.
Vous voyez ? C'était le premier jour.
Voilà. Et ils s'en sont même pas rendus compte, tellement c'était spontané. Je vous rappelle que...
J'étais dans cette première...
Voilà.
Dans
moi,
cette
l'impression première, que j'ai bon actuellement, et je suis pas le seul, hein, c'est que nous sommes en 1788, que les gens qui ont des privilèges se durcissent, exactement comme l'environnement de Marie-Antoinette s'est durci quand Turgot puis Necker ont proposé des réformes qu'ils ont jugées inacceptables. Trois ans plus tard, ils ont tous perdu la tête. Y compris Marie-Antoinette, y compris le roi, etc. Alors, je n'appelle pas, bien sûr, de manifestations violentes, ni quoi que ce soit, mais on va les avoir. On va les avoir parce que, en cessant de donner à ceux que l'on éduque l'espoir de s'élever, à un certain moment, ils vont aller chercher ce qu'on refuse de leur donner.
Moi, je suis prêt à vous, entendre sur ce diagnostic, mais vous l'avez dit vous-même, la société a produit non plus des citoyens, mais des consommateurs. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette société se contente, dans le fond, maintenant, de son pouvoir d'achat et de pouvoir consommer, d'acheter son Nutella et de s'arrêter, en fait, à cette perspective ?
Alors, tout à l'heure, vous parliez de la possibilité de faire comme en Espagne et de réduire drastiquement les salaires, les retraites, si vous touchez actuellement au pouvoir d'achat. Et Dieu sait que le pouvoir d'achat est en train de baisser tout seul du fait de l'inflation. Je rappelle que nous avons connu, vous et moi, des périodes de grande inflation, mais où les salaires suivaient l'inflation. Hein. Bon, actuellement, c'est le contraire. C'est-à-dire, moi, homme de livres, je vois bien que les livres s'achètent de moins en moins parce que les gens achètent des pommes de terre et des pâtes plutôt que d'acheter des livres. Et ça peut se comprendre. Il faut bien comprendre une chose, c'est que sinon plus les moyens d'acheter les objets mirifiques de la société de consommation, ils iront les chercher. Et ils iront les chercher là où ils sont. Voilà. En vérité, je vous le dis, si dans les deux ans, il y a des manifestations violentes un peu partout en France, ce ne sera pas de ma faute. Hein, mais en tout cas, je l'aurai averti.
Hein. C'est l'apocalypse que vous décrivez.
C'est l'apocalypse que je décris.
L'apocalypse, c'est une révélation dans son sens étymologique.
Oui, effectivement. Ben, la révélation, c'est que ceux qui n'ont rien, à un certain moment, vont vouloir tout.
Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci Yvan, merci Véronique. On vous retrouve tout de suite dans Enquête d'Esprit. De quoi vous nous parlez dans un instant ?
De la Providence, qui est un joli mot qui veut dire Dieu pourvoit.
Eh bien évidemment, la suite des programmes. Vous restez bien sûr CNews avec donc Enquête d'Esprit.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.